Nous poursuivons cette semaine notre voyage entre profane et sacré. Il trouve dans nos églises sa matérialisation par toute une série d'éléments architecturaux. Depuis les origines, une séparation physique existe dans les églises entre l'espace profane des fidèles, la nef, et le sanctuaire qui, lui, est le domaine des prêtres et lieu des mystères du culte. Thibaud de Rouvray, bonjour.
Bonjour, David Agiraud.
Alors, vous avez évoqué dans une précédente émission chancelles et autres arcs triomphales. Aujourd'hui, on va intéressé à un autre élément très présent dans les églises, le jubé. Alors, on commence par un peu d'étymologie, et là, référence obligée au latin.
Et oui. Alors, c'est vrai que dans l'émission précédente, on avait vu un peu des éléments qui remontaient très haut dans le temps, et là, on avance un peu dans la chronologie, et on découvre des éléments de plus en plus volumineux. Alors, ce jubé, c'est un terme qui vient d'une formule latine, hein, jubé, domine, benedicere. C'est une formule liturgique qui veut dire daigner Seigneur, nous bénir, et cette formule, elle est adressée aux célébrants lors de la liturgie par le diacre avant de proclamer l'évangile.
Alors, il y a une différence de signification, de définition d'un pays à l'autre pour ce jubé.
Oui, alors c'est vrai qu'en Belgique, j'ai eu un peu la surprise de voir qu'on emploie encore très régulièrement dans les églises de campagne le mot jubé, mais c'est pour désigner ce que nous, on va plutôt appeler une tribune.
Voilà, alors on est là maintenant dans le domaine de la définition. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est qu'un jubé? Quand vont-ils faire leur apparition dans nos églises?
Alors, le jubé, voilà, il faut imaginer une construction assez imposante qui peut être soit bâtie en pierre ou en bois, mais qui fait plusieurs mètres de haut et qui va vraiment barrer. Hein, faire, on peut avoir l'image, par exemple, des iconostases dans le culte orthodoxe, mais qui va vraiment barrer la vue et l'entrée dans le cœur.
Là, on est vraiment dans la séparation du profane et du sacré. Hein, on ne se mélange pas et on entend, mais on ne voit pas.
Voilà, c'est vraiment le cas de dire qu'on va entendre la messe, oui.
Donc vous le disiez, la construction de ces jubés remonte au Moyen-Âge, et on a affaire dans la plupart des cas à des ouvrages très très ornés.
Oui, voilà, puisque c'est pour marquer aussi ce seuil dans la clôture de chœur, dans l'entrée du sacré, de la partie la plus ornée de l'édifice. Donc dès le XIIe siècle, voilà, on va avoir des exemples, notamment, je pense à l'église de Serrabonne dans les Pyrénées-Orientales, où on a un très beau jubé d'époque romane avec des décors sculptés. Et jusqu'au XVIIe siècle, on va avoir le soin d'orner particulièrement ces clôtures.
Alors vous parliez de clôture monumentale. Précisément, comment ça se manifeste?
Alors, on va avoir, voilà, ce mur, en fait, qui ferme l'accès au cœur, mais qui va être percé en son centre d'une porte, hein, puisqu'il faut bien quand même pouvoir pénétrer. On peut imaginer le clergé qui rentre en procession dans le sanctuaire. Et en général, de part et d'autre de cette porte, il y a des chapelles qui sont aménagées, donc des autels dont les retables sont appuyés à la clôture.
Quels étaient ou quels sont les principaux matériaux utilisés pour ces jubés?
Alors, on peut avoir de la pierre dès l'époque romane, du marbre, parfois avec des incrustations de mosaïques. On peut avoir d'autres exemples aussi de clôtures ouvragées en bois, hein, notamment on en a quelques exemples conservés de la Renaissance.
Alors, ces jubés, ils vont perdurer pendant plusieurs siècles. Vous situez leur apparition au XIIe siècle. Jusqu'à quand on va les trouver et par quoi seront-ils remplacés?
Alors, on va les retrouver. En fait, la liturgie évolue. C'est vrai qu'après le Concile de Trente, au XVIe siècle, il y a un désir aussi de montrer le développement du culte. Donc, c'est vrai que les derniers exemples, voilà, ils remontent au XVIe, XVIIe siècle. Un des derniers, peut-être, est celui de Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Voilà, ces jubés servaient aussi à la prédication. Donc, ils vont être remplacés par d'autres éléments, notamment la chaire à prêcher qui va être installée dans la nef.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'église de Serrabonne, perchée là, dans les Pyrénées-Orientales. D'autres exemples dans notre région d'Occitanie?
Oui, alors des exemples. Alors, certains jubés souvent ont été démontés, parfois assez tardivement, notamment à la cathédrale de Rodez. Il y a eu toute une polémique au XIXe siècle, une querelle d'érudits, puisque le jubé était encore en place, mais il a fini par être démonté et mis sur un bas-côté. On a d'autres exemples où on les retrouve encore en place, à leur place d'origine, notamment à la cathédrale d'Albi, hein, il est très, très présent, à la cathédrale d'Auch également.
Et puis celui de Saint-Bertrand de Comminges.
Voilà, Saint-Bertrand de Comminges, qui est un exemple en bois de l'époque Renaissance.
Alors, il y a d'autres types de séparation, de barrières, ce sont des tables, les agenouilloirs de communion.
Oui, voilà, ce qu'on a plus l'habitude en fait, de rencontrer dans les églises, même modestes.
Là, on progresse encore dans le temps, on se rapproche des temps modernes.
Voilà, tout à fait, puisque ce qu'on peut rencontrer le plus souvent, c'est cette petite barrière ajourée qu'on va appeler donc table ou agenouilloire de communion et qui est percée d'un petit portail en son centre pour accéder dans le cœur.
Ils sont destinés aux fidèles aussi pour la communion.
Oui, alors voilà, ça a à la fois la fonction de fermer l'accès au cœur, donc quand la cérémonie, la liturgie se déroule, tout est totalement fermé, le petit portail, mais aussi lors de la communion, de la distribution de la communion, le prêtre s'avance contre cette barrière qui est autrefois garnie d'une nappe, et les fidèles viennent s'agenouiller et recevoir l'hostie devant cette barrière.
Alors là aussi, les matériaux utilisés sont très divers.
Oui, on va avoir pour des exemples du XVIIe siècle, souvent du bois tourné, des barreaux peints. On peut avoir aussi, selon les moyens et selon la région, s'il y a des carrières de marbre, on peut avoir des balustres en marbre.
Ce que vous appelez des balustres ?
Des balustres, voilà, en fait, des éléments de séparation, enfin, qui ferment cette barrière, hein, qui la sépare. Des balustres en forme de vase ou autre, de vase tourné en marbre, par exemple, qui soutiennent l'appui.
Les différences d'utilisation de matériaux sont aussi dues, vous l'avez dit, à des questions de moyens.
Oui, voilà, dans une église de campagne ou de montagne, c'est vrai que c'est souvent le menuisier du secteur qui va les réaliser. Je pense à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, on peut avoir, ou à Auch notamment, vraiment du marbre de Cosne-Minervois, du marbre de Carrare qui va être employé.
Alors vous le disiez, tous ces éléments, jubés, chanelles, clôtures et autres barrières, ont eu pour vocation d'isoler le cœur du reste de l'église, de séparer le monde profane du sacré. Des célébrants, des prêtres, ils semblent disparaître aujourd'hui dans les églises modernes. Alors on sait qu'avec le Concile de Trente, il y a eu une première évolution, et avec Vatican II, une nouvelle évolution, on ouvre, l'église s'ouvre et la communication est désormais plus facile entre les fidèles et les célébrants.
Oui, alors c'est vrai que beaucoup de barrières, de tables communion ont été retirées suite au Concile Vatican II. Or, parfois aussi, c'était des éléments qui étaient relativement récents, qui étaient réalisés en fonte, par exemple, donc des choses fabriquées un petit peu en série. Voilà, donc il y a eu ce désir d'ouverture, parfois difficile, hein, et puis ces barrières ont parfois aussi une fonction de sécuriser les célébrants, puisqu'il y a parfois des marches, hein, donc il faut éviter de tomber. Donc souvent, voilà, des compromis ont été trouvés en fait, en enlevant simplement la partie centrale, donc en ouvrant la célébration et en faisant participer les fidèles au culte. Donc c'est en général, voilà, suivant les églises, les paroisses, les solutions choisies ont été un petit peu adaptées à chaque lieu.
Alors, pour terminer, j'invite nos auditeurs, par exemple, à venir à l'abbaye Notre-Dame de Tournailles, qui est une abbaye tout à fait moderne, en tout cas, elle a été construite au XXe siècle. Et on a à la fois un dépouillement complet à l'intérieur de l'église et une ouverture complète. Il n'y a pas de séparation entre le chœur et la nef. Et donc c'est effectivement très différent par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les siècles précédents. Thibault, je vous remercie.
Merci.
On se retrouve très, très prochainement pour poursuivre avec vous notre voyage à l'intérieur de nos édifices religieux de l'Occitanie. Merci à vous, à très bientôt.
Merci, à bientôt.